ليكسبير. ليكسبير اليوم نحكيو على القارة الإفريقية، ماما أفريكا، القارة الأم. برشا أحلام تدور حول القارة هذية. قلت أكثر مرة الكلمة اللي تتقال عليها ياسر، لو نوفيل إلدورادو. اليوم ما عادش لو نوفيل إلدورادو، على خاطر يتولي الإلدورادو تو سامبلومون. وشفنا دول بطم طميمها استثمرت في القارة بشكل كبير جدا، وفي قلب هذية الكل فما حدث مهم جدا ينتظم انطلاقا من اليوم. تحديدا نحكيو على الفتاة 2026 في دورتها التاسعة، Financing Investment and Trade in Africa، في 2026 بعنوان مختلف كما كل سنة. وفي الإطار هذية justement نحكيه حول بلد بعينه. البلد هذية هو ضيف شرف في الدورة هذية، نحكيه على كندا. وفي السياق هذية حاضرين بحضنا ضيوفنا justement pour en parler. Nous avons le plaisir d'accueillir son excellence monsieur Ben Marc Diandéré, envoyé spécial du Canada pour l'Afrique. Bienvenue parmi nous.
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Son excellence monsieur Alexandre Bilodeau, ambassadeur du Canada en Tunisie. Bienvenue parmi nous.
Aslam Anassel Koul, merci beaucoup de l'invitation.
Voilà, c'est clair que vous êtes vous devenez tunisien après 8 mois. Donc je parlais en fait dans l'introduction du poids du continent africain, de l'importance de l'avenir de ce continent-là. C'est un continent qui s'impose comme un espace stratégique majeur de l'économie mondiale. D'ailleurs, c'est ce que dit l'ONU en fait récemment. D'ici 2050, le continent comptera près de 2,5 milliards d'habitants, soit un quart de la population mondiale selon les Nations Unies. Aussi 60% pratiquement c'est des jeunes, ce qui est vraiment très enrichissant pour le continent. Sur le plan économique aussi, ça s'accélère, la dynamique s'accélère énormément. Et hier, d'ailleurs, j'ai vu les chiffres, l'Afrique subsaharienne a enregistré en 2025 une croissance de 4,5%, un niveau inédit depuis 10 ans pratiquement, selon le Fonds monétaire international. Donc il y a vraiment un boom sur le continent africain. Cela dit, l'Afrique ne capte encore qu'environ 3% uniquement des investissements mondiaux, d'après la CNUSED. On se pose la question, donc on vous pose notre première question, monsieur Ben Marc Diandéré. Alors premièrement, comment vous expliquez ça? Et vous, je parle du Canada, comment vous positionnez-vous ou comment vous positionnez sur ce continent, dont si on fait un petit portrait en fait de tout ce que je venais de dire?
Mais écoutez, merci encore pour l'invitation, et puis j'aime beaucoup le portrait que vous faites de la situation économique du continent. Moi, je continue à penser qu'on ne dit pas tout non plus. Vous savez, c'est un continent de 54 pays. C'est beaucoup de pays. Et déjà, mettez ça à côté de l'Union européenne, vous allez voir que c'est vraiment une grande chose. Oui, les chiffres sont là que les gens doivent comprendre par rapport à la démographie et tout ça. Pourquoi encore le continent africain ne reçoit pas tout le spotlight qu'il devrait avoir dans le cas? Ça dépend d'où vous vous placez. Mm-hmm. Si vous demandez aux Asiatiques, ils vont dire que l'Afrique a un spotlight. Pour les Chinois, les Asiatiques, c'est un spotlight clair. Les Européens, à cause de la proximité, ont un spotlight clair sur l'Afrique. Mais quand vous parlez du Canada et des États-Unis, donc tous ceux qui sont dans la zone Amérique, on est de l'autre côté du globe, on est en hauteur. Donc l'Afrique nous revient par des miroirs déformés, comme je dis souvent. Une actualité de crise, une actualité. Et beaucoup d'Américains du Nord, et y compris les États-Unis, ça a pris, comment il s'appelle, l'influenceur pour commencer à expliquer l'Afrique aux Américains. Ça vous donne une idée de jusqu'où, d'où on part. C'est la même chose pour les gens d'affaires. Donc il y a des gens d'affaires qui ont compris l'importance de l'Afrique très très vite et qui sont déjà sur le continent. Dans le cas du Canada, on est quand même, j'ai expliqué à l'ambassadeur qu'on avait peut-être 150 entreprises très très actives. Il y en a beaucoup plus, mais il y en a qui sont très très actives dans divers domaines, agriculture, les mines, les énergies sur le continent. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, on peut faire mieux. On n'a même plus le choix de faire. Parce que l'Afrique, des chiffres que vous venez de donner, pour quelqu'un qui connaît la mathématique, 2,5 milliards, c'est tout un marché.
Exactement.
Et on sait le nombre de jeunes qui vont rentrer sur le marché aujourd'hui du travail en créant leur entreprise. Et qui, vous savez, entre ceux qui ont mon âge et ceux qui sont jeunes aujourd'hui, ils ne sont pas ceux qui vont aller aux grandes études pour arriver à faire leur entreprise. Les gens vont aller et ils n'attendent même pas pour le faire. Moi, je suis né en Afrique. Alors, je me rappelle que quand je partais, j'étais très très jeune, on faisait des cabines téléphoniques pour pouvoir appeler en Afrique. Aujourd'hui, quand je retourne au Burkina Faso où je suis né, les gens ont trois téléphones devant eux. les gens n'ont pas attendu quoi que ce soit. Les gens sont en train de leapfrogger, on fait des sauts de crapaud là, pour la technologie et pour l'avancement économique. Mm-hmm. Alors, oui, l'Afrique devient un marché important et pour le Canada, qui est contraint maintenant, disons-le comme ça, honteusement, monsieur l'ambassadeur, que notre grand voisin du Sud nous a obligés à nous regarder, à nous dire, vous ne pouvez pas bénéficier impunément de 300 millions de consommateurs comme ça. Un peu aller voir ailleurs, ben, on a un premier ministre qui est très volontaire, qui a dit, ben, les Canadiens, il va falloir diversifier notre marché. Il ne faut pas s'asseoir sur les certitudes qu'on avait, d'avoir 300 millions de personnes qui étaient nos voisins avec lesquels on transigeait 24/7, 2 milliards par jour. Et ça n'a pas besoin d'aller ailleurs. Maintenant, on est obligé d'aller ailleurs. Et là, ça nous oblige à faire des changements. Il s'opère. On fait des changements avec une stratégie Afrique qu'on a lancée, avec des domaines d'exploration très intéressants, l'énergie, les énergies, l'agribusiness, l'intelligence artificielle et les technologies, l'éducation vocationnelle, la transformation maritime et également les industries de la défense et de la sécurité. Donc on arrive.
Je vous ai entendu parler des minerais aussi, je crois.
Absolument, ouais. Les mines. Les mines, ça reste le pain et le beurre du Canada. C'est un peu ce pourquoi nos entreprises ont été connues sur le continent en termes d'affaires. Mais là aussi, ça se transforme tranquillement. Je pense qu'avec les velléités nationales de certains pays, les gens commencent à discuter de passer du mode extractif à la transformation. Donc là, le Canadien se transforme aussi. Nos entreprises ont été très responsables dans ce domaine. Mais il y a bien d'autres domaines. On a rencontré les gens du FIPA aujourd'hui. Et puis il y a l'aéronautique dans lequel on est très fort. L'automobile dans lequel on est très fort. La Tunisie devient un hub pour ça. Pourquoi ne pas y mettre? Il nous a parlé du textile, qui est un domaine aussi qui est d'intérêt pour les Canadiens. Alors, oui, très heureux de voir que le Canada s'oriente sur quelque chose de différent, une diplomatie économique. On passe de développement humanitaire et tout ça, on a été très bon là-dedans pendant 70 ans. Mais là, on veut faire de la business.
On change d'optique aujourd'hui.
Exactement.
Vous avez parlé du positionnement du Canada sur le continent. Là, je me pose la question, d'ailleurs, je vais m'adresser à M. Alexandre Bilodeau sur la timidité de l'approche. Est-ce que vous considérez que le Canada est... adopte une stratégie ou une approche relativement timide pour commencer à conquérir, entre parenthèses, ou à découvrir, je ne sais pas si c'est une découverte, parce que ça fait longtemps quand même que vous travaillez sur le continent, c'est pas une découverte, mais quand même là, ça se transforme depuis une dizaine ou une quinzaine d'années à peu près.
Oui, mais écoutez, merci beaucoup de l'invitation, merci d'être là, c'est un grand plaisir. Non, je pense que c'est une observation qui est pertinente et qui s'explique. Je dirais que c'est probablement dû au fait que l'économie canadienne, comme le disait l'ambassadeur Dien Doré, a été vraiment axée sur nos relations commerciales bilatérales avec les États-Unis. L'imposition des droits, des tarifs douaniers nous ont forcé un peu la main il y a à peu près un an à commencer à réagir. Et dans ce contexte-là, on est un peu dans ce laboratoire, dans cette transformation donc, qui implique évidemment une diversification commerciale. L'enjeu, c'est que la majeure partie des entreprises canadiennes sont des PME. Donc la facilité d'aller vers le marché américain, qui était la réalité quotidienne et historique, est maintenant mise à défi et doit imposer donc une façon de penser qui soit nouvelle, etc. Moi, je pense que dans toute crise, il y a une bonne opportunité et clairement dans cette crise, dans cette rupture, comme l'a dit le Premier ministre du Canada à Davos, que nous observons au niveau du commerce international et de l'ordre international tel qu'on le connaissait et qu'on l'a construit depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a vraiment une opportunité et j'espère qu'on va pouvoir la saisir. Je suis confiant qu'on va pouvoir la saisir et je suis aussi confiant que l'Afrique va en faire partie et je dirais même d'autant plus, vu mon rôle aussi ici, que la Tunisie peut en faire partie pour ce qu'elle a à offrir comme porte d'entrée pour l'Afrique, mais aussi en tant que tel, comme marché pour le Canada. Bon, il y a l'enjeu, bien entendu, de la distance géographique qui nous sépare, mais je pense qu'il y a des secteurs qui sont porteurs pour une proximité, et là, je parle, bien entendu, de la proximité cyber et aussi de tout ce qui est, technologie, des communications, l'intelligence artificielle, mais l'éducation aussi, des secteurs, j'appelle soft, qui sont beaucoup plus faciles à exporter que, bien entendu, des containers remplis de blé. Bien qu'on aimerait beaucoup exporter du blé vers la Tunisie, on l'a déjà fait dans le passé, et donc il y a énormément d'opportunités de secteurs porteurs. Mais pour en revenir à votre question sur la timidité, je pense qu'elle est aussi liée à quelque chose que l'ambassadeur Bien-Doré a souligné, c'est le manque de connaissances et de compréhension du marché africain.
Je pense... c'est pas faux en fait. Quand j'ai utilisé le terme découverte quelque part.
Mais vous avez raison. C'est un renouveau. C'est que nos industries, nos compagnies se sont essentiellement axées sur le marché américain, comme je disais. Et donc, bien qu'il y a eu des grandes entreprises historiquement, non seulement dans le secteur des mines, mais aussi dans le secteur de l'énergie, les SNC-Lavalin de ce monde. Bref, il y a eu de grands investissements qui ont été faits sur le continent et en Afrique en particulier, et de grands projets qui ont été faits. Je pense à la centrale énergétique de Sousse en particulier, qui a été construite par SNC-Lavalin en partenariat avec une compagnie italienne. L'infrastructure, la grille électrique de la Tunisie, c'était aussi un des projets avec un engagement canadien. Bref, il y a cet historique, mais là, on a besoin de se transformer et de se rediriger vers peut-être des secteurs nouveaux. On en a mentionné quelques-uns, j'ai mentionné l'éducation, l'éthique dans notre délégation à FITA, et c'est un petit peu ce qui nous apporte ici aujourd'hui. Les compagnies canadiennes représentées sont surtout dans le secteur des technologies de l'information, de l'IA, mais des technologies de l'énergie propre, technologies propres, et aussi des services professionnels. Ça, c'est un autre aspect où le lien linguistique et historique qui lie le Canada et la Tunisie, la francophonie, bien entendu, mais aussi une affinité culturelle, une affinité diplomatique avec nos relations diplomatiques qui datent de 70 ans, plus de presque 70 ans, il y a vraiment de quoi bâtir. L'éducation en est une autre. Le lien et la mobilité des personnes, la diaspora tunisienne au Canada, le fait qu'il y a beaucoup de Tunisiens qui ont une expérience de vie au Canada, d'études, ou qui ont commencé une affaire et qui sont maintenant revenus en Tunisie et qui veulent réinvestir en Tunisie, qui ont maintenant le chapeau, la double nationalité canado-tunisienne, et qui, eux, sont un atout vraiment important pour, justement, bâtir une relation ou diversifier nos relations commerciales. Il y a énormément de volonté de la partie tunisienne. Je disais, il n'y a pas une rencontre où je vais, où on ne me demande pas plus de Canada. We want more Canada. Moi, c'est tout à fait gratifiant, bien entendu, compte tenu de mon rôle. Mais on veut que ça soit structuré, on veut que ça soit gagnant-gagnant et vraiment fait dans le respect des règles. Et c'est ça que je voudrais dire pour conclure, c'est que avec le Canada, vous avez un partenaire fiable, respectueux, et un partenaire qui va aussi s'assurer qu'il va respecter les règles du droit international. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité et qui est important de souligner.
Un très bon clin d'œil, en tout cas. Cette petite phrase par rapport aux règles. Et on a parlé un petit peu des différents secteurs, des intérêts du Canada pour le continent africain. Ce serait intéressant aussi de citer quelques chiffres. Est-ce qu'on a aujourd'hui un chiffre officiel sur le poids canadien sur le continent africain?
Les dernières statistiques sont sorties en ce moment. On était à 19 milliards de transactions. C'est passé de 15 à 19 milliards en 3 ans.
D'accord.
Ça, c'est une excellente progression déjà. Avec la question de l'automobile ici, la question de l'huile d'olive, le blé en Algérie. Et sur le continent, on voit déjà qu'il y a de la transaction qui se fait.
Vous avez parlé tout à l'heure de la Chine. J'ai les chiffres devant moi. Là, on parle de 280 milliards de dollars d'échanges commerciaux avec l'Afrique.
Avec 25 années de coopération sur la route de la soie.
Ouais, c'est vrai.
25 années. Ça dit pendant que nous, on était en train de toujours faire notre argent avec les États-Unis et le Mexique, qui sont nos voisins, eux, ils avaient commencé le marché de travail. Et tant mieux. Moi je suis toujours pour la compétition. On vient d'Amérique. Mais ce que je veux que les gens retiennent surtout, les chiffres peuvent être ce qu'ils sont. La Chine a décidé de mettre beaucoup son énergie et son investissement dans l'infrastructure, ouais, dans les domaines et tout ça. Mm-hmm. Et oui, mais elle est devenue plus subtile que ça. Elle est allée dans des domaines pour lesquels on les minéraux maintenant, qui sont maintenant très, très visibles. Mm-hmm. Le Canada, on était à ce moment-là dans une perspective de développement, mm-hmm, avec les pays. Donc, on avait une relation d'accompagner les entreprises des femmes, les entreprises des jeunes, dans des domaines porteurs à l'époque, qui sont très porteurs. Mais les pays ont changé. Mm. C'est là où mon chapeau d'ambassadeur pour l'Union africaine marche. Quand tu vois les pays membres de l'Union africaine, ce qu'ils disent aujourd'hui, l'aide, merci, on veut des investissements. Mm-hmm. Co-investissons, faisons ce qu'on peut, réduisons les dettes, faisons ce qu'on peut pour aider les pays à avancer.
Vous êtes dans une logique de partenariat équilibré, si je peux dire ça comme
oui,
ça.
Oui, et c'est vraiment le cœur de notre stratégie Afrique, c'est de dire on veut des win-win situations. On veut que ce soit... Ça ne sert à rien d'arriver comme des prédateurs dans un pays. Mm-hmm. L'idée, c'est d'avoir une réalité durable pour tout le monde. L'Afrique a déjà beaucoup de résilience, mm-hmm, hein, les gens le savent. Et si on réussit à amener les PME canadiennes, parce qu'on parle beaucoup de PME, j'aime voir la question de votre timidité au début. Mm-hmm. La timidité des PME canadiennes est réelle. Elles n'avaient pas besoin d'aller nulle part. Mm-hmm. Mais les grandes entreprises n'étaient pas timides. Mm-hmm. Elles allaient, elles fonçaient, elles avançaient. Mais on est un pays de PME et les PME doivent trouver maintenant de nouvelles places pour s'engager. En termes de chiffres, c'est 90% de l'économie canadienne qui est des PME. Mm-hmm. On ressemble beaucoup à la Tunisie dans,
ouais,
ce sens-là.
C'est vrai.
Mm-hmm. Et souvent, ça n'a pas besoin d'être dans les grandes mathématiques pour que les gens comprennent que les choses se font. Mm-hmm. Les histoires qu'on a entendues aujourd'hui sur les entreprises binationales, c'était absolument touchant. Moi, j'aimerais que les gens s'intéressent davantage au FITA pour voir les choses qui se passent. Nous, en tant que pays... d'honneur cette année avec la Guinée, on a eu la chance d'avoir un side event où on a vu un événement parallèle où on a fait venir des entreprises. Il y en a 45 qui sont là, c'est l'ambassadeur pour LD, mais dans les énergies propres et tout ça. Et ça se passe. En fait, ça se passe. C'est qu'il faut trouver une façon, c'est le scale-up. Il faut trouver une façon de passer à un niveau...
supérieur,
ouais. C'est une espèce de tourner un peu le bouton pour que ça augmente et le faire à notre rythme. En ce moment, ça a l'air circonstanciel que le Canada est en train de chercher à diversifier son marché. Non, c'est un pays de 40 millions de personnes qui doivent se réinventer leur tissu industriel, mm-hmm, réinventer notre accès aux énergies, réinventer notre vente aux énergies dans le monde, mm-hmm, et plein de choses. Et moi, j'aime l'idée qu'on choisisse des pays comme la Tunisie pour avoir une pensée triangulaire, c'est-à-dire Tunisie, Canada et Afrique, Union africaine, pour des modèles. Ça prend des modèles pour avancer. Je suis un éternel optimiste, moi. Je crois que la Tunisie a quelque chose à offrir dans le profil qu'on veut développer, dans le mécanisme qu'on veut développer avec le continent.
Alors c'est une très bonne transition en fait pour la question d'après en fait par rapport à la Tunisie. Alors justement on se pose la question par rapport à la relation tuniso-canadienne. La Tunisie peut-elle devenir vraiment une plateforme? Elle est, je ne sais pas, je vous pose la question, votre excellence, monsieur Alexandre Bilodeau, peut-elle devenir une plateforme régionale, entre parenthèses, pour le Canada en Afrique?
Mais c'est une très bonne question et c'est la thématique de l'heure pour notre engagement à FITA. Si je peux prendre peut-être juste un moment là-dessus pour dire qu'on est très heureux d'avoir été invité comme pays d'honneur. Ouais. Quand Annie Jaziri, le président de TABC, nous a approchés, on n'a pas hésité parce que vraiment, ça s'inscrivait dans une logique justement de cette diversification commerciale et d'essayer, comme on le disait, d'amplifier un petit peu l'intensité de notre engagement avec la Tunisie. En réponse à votre question, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un potentiel. Je le disais sur ce plateau même il y a quelques mois quand j'y étais, que la Tunisie a tout ce qu'il faut pour être un partenaire naturel du Canada en matière de relations commerciales. On a l'assise de nos relations diplomatiques, on a notre historique, on a notre héritage culturel, linguistique partagé, et on a maintenant ce tissu de lien de personne à personne qui existe depuis quand même plusieurs décennies. Donc il y a plusieurs atouts. Et je pense qu'il y a une volonté, comme je disais, moi j'aime beaucoup me faire dire qu'on veut plus de Canada, j'espère qu'on va pouvoir offrir plus de Canada. Le message doit être aussi livré au Canada, aux entreprises canadiennes.
Exactement.
Et là, la partie tunisienne a aussi un rôle important à jouer. Mmh. Et on travaille dans ce sens-là, de concert avec votre ambassade de Tunisie au Canada, donc votre ambassadeur Lassad Boutala, qui fait un excellent travail à justement faire comment dire, porter la lumière sur les opportunités qui existent en Tunisie. Mm-hmm. Pour les compagnies canadiennes, pour les investissements. Et on fait la même chose de ce côté-ci sur les possibilités pour la Tunisie au Canada. Donc on travaille vraiment dans la même direction et dans le même sens. Et à cause de ça, je dirais que les opportunités et la volonté n'ont maintenant jusqu'à se concrétiser. Donc on est dans ce laboratoire de mise en œuvre maintenant.
Je veux juste rajouter à l'exposé de mon collègue ambassadeur Bilodeau. Ça m'a frappé quand on a rencontré le président du FIPA Tunisie.
Anis Jezeri.
Exactement.
On le salue d'ailleurs.
Alors, oui, qu'on salue et qui nous a fait un exposé extraordinaire. Il y a plus de 4000 entreprises en Tunisie qui ont des partenariats extérieurs. C'est beaucoup d'entreprises pour un pays de cette taille et tout ça. Au-delà de ça, on a eu aussi un exposé hier d'un expert tunisien qui nous montrait le nombre de conventions de libre-échange et d'agréments que ce pays-là a avec le reste. Mm-hmm. Vous savez, un pays qui a de vraies relations d'échange économique avec le, comment on dit ça, des pays voisins ou au niveau continental ou ailleurs, quand vous êtes un pays comme le Canada qui est bâti sur du multilatéralisme, c'est-à-dire francophonie, Commonwealth et tout ça, moi, le pays qui s'appelle Tunisie, qui a beaucoup d'ententes multilatérales et les autres, si je suis une entreprise, ça va m'intéresser. Parce qu'il y a de quoi faire avec des ententes comme celle-là. Mm-hmm. Alors oui, l'ambassadeur, vous êtes chanceux en plus, vous avez un ambassadeur qui parle arabe. Je trouve, chaque fois qu'il parle, je sursaute en me disant, en plus, ça veut dire qu'il y a une finesse dans la compréhension et tout ça.
Aïchek.
Voilà, il vient de me battre encore. Non, mais tout ça pour dire qu'il y a des équipes de commerce ici, il y a des équipes de commissaires ici qui suivent aussi l'évolution des choses. Et nous, on le suit au niveau continental, bien entendu. La Tunisie a une place à prendre. Il faut qu'elle la prenne. Je faisais l'analogie dans la voiture en venant que j'ai l'impression qu'il y a un petit je ne sais quoi qui manque, qu'il faut que la chose accroche pour que ça devienne mais vraiment l'effet waouh qu'on recherche. Mm-hmm. Il y a un effet waouh, mais le waouh, il est pas, il faut aller le chercher.
Ouais. Qu'est-ce que je fais là? Je parle fort à la radio maintenant.
Alors, vous voyez comment je commence à être tunisien moi-même.
C'est bien, pourtant c'est votre première visite.
Oui, écoutez, première visite, je prends le beat moi. Très
exactement.
Vite.
Voilà. Juste une petite remarque, tout à l'heure en fait, c'est monsieur l'ambassadeur Alexandre Bilodeau qui vient me corriger. En fait, j'ai entendu FITA, c'était FIPA en FIPA, fait, c'est FITA. FITA, yeah. FITA c'est Anis Jezeri, FIPA c'est monsieur Jalel Tbib. Voilà, donc pour juste rectifier. Alors, on va aller voir les news de la bourse, exactement, donc Flash Bourse, et puis on va clôturer en deux minutes sur quelques petites notes par rapport à vos messages aux investisseurs canadiens, d'accord, aux Tunisiens, quels sont spécifiquement les atouts, qu'est-ce qui pourrait encourager un investisseur canadien aujourd'hui, vous avez le temps de réfléchir, à venir en Tunisie, et en même temps, quels sont les freins auxquels ils doivent se préparer. Stanéouna, Rajaïm Badlahabat.
Ecomag.
في الجزء الأخير من الإكسبيريوم الحديث نفكر مرة أخرى حول القارة الإفريقية وعلاقة كندا بإفريقيا. تقريبا حكينا على جملة من التفاصيل, حكينا على الحجم تاع تواجد الكندي في القارة الإفريقية, العلاقة مع مختلف الدول الإفريقية, تطور العلاقة ذي مع نوع من الاحتشام في البداية, ولكن فما تطور كبير في 3 سنوات كما كان حكي ضيفنا منذ لحظات السيد بن مارك تيانديغي. فكركم ضيفنا السيد بن مارك تيانديغي وسيد ألكسندر بيلودو حاضرين معنا اليوم. وآخر جزء la dernière partie de notre interview justement, c'est par rapport à vos messages, ouais. Ce que vous voulez dire exactement aux investisseurs canadiens. Alors si, je vais vous poser une double question en fait, on va essayer d'imaginer ensemble que les investisseurs nous écoutent, et si vous pouvez répondre justement à cette question, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait vraiment être bénéfique, ou quels sont les atouts qu'un Canadien, un investisseur canadien, il peut en profiter en Tunisie réellement. Mais en même temps, de l'autre côté, quels sont les freins auxquels ils doivent se préparer concrètement? Voilà, sur le continent africain et en Tunisie.
Bon, voilà, excellent.
Des petites questions.
on appelait ça une dissertation à l'école. Il fallait. Écoutez, quel message? D'abord, moi je pense qu'il faut que les gens comprennent, parce que c'est devenu un terme fourre-tout, les investisseurs. Mmh. Il y a différents types d'investisseurs. Il y a des investisseurs institutionnels, c'est-à-dire qui sont liés à des fonds de pension, gouvernementaux et tout le reste. Il y a des investisseurs privés, monsieur et madame tout le monde, qui a de l'argent, qui veut le mettre ailleurs. Ou il y a aussi des investisseurs, comme je dirais, qui ont en tête de qui ont de l'argent et qui ne savent pas trop quoi en faire, mais qui le confient à quelqu'un pour le faire. Ouais. Donc, on a diverses catégories. Ouais. Si j'ai un investisseur en face de moi aujourd'hui, le continent sur lequel il doit travailler, c'est le continent des 54. C'est vraiment celui de l'Afrique. D'abord, je pense qu'il y a une résilience à essayer certains endroits, mais il y a des fast-track aussi à faire dans certains domaines, clairement. La question de l'eau. Ici, on ne s'en rend pas compte, mais quand vous venez d'Éthiopie, comme d'où je viens, à Addis Abeba, l'eau, c'est essentiel. C'est 130 millions de personnes qui n'ont pas d'eau courante. C'est-à-dire, il y a de l'eau courante maintenant parce qu'on livre l'eau. Alors, vous savez, il y a des fast-track dans l'investissement. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut qu'ils aient en tête, que oui, il y a des domaines qui peuvent être très privilégiés pour eux, des domaines... à quelle vitesse tu veux faire ton argent? Puis dans quel but? Pour les investisseurs éthiopiens et tunisiens qui veulent voir faire de l'exploitation sur le Canada, pensez aux accords de libre-échange que notre pays a avec beaucoup de pays et beaucoup de zones. C'est-à-dire que votre produit peut arriver, puis la question des origines des produits change dès qu'on rentre dans un accord de libre-échange. Il y a des choses comme ça qu'il faut imaginer aussi. Ce n'est pas le Canada dans un sens, c'est le Canada et la Tunisie dans l'autre sens et l'Afrique régionalement. Alors, dans les défis, je vous l'ai dit, il manque un effet wow toujours dans c'est pas seulement en Tunisie, dans beaucoup de pays africains que j'ai visités, il y a une petite coche qui manque, qui ferait que la chose serait plus facile. Est-ce que c'est dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est dans l'esprit de l'entrepreneuriat? Par exemple, il est plus facile de créer une compagnie, par exemple, nous on a ça au Canada, en 15 minutes tu as créé ta compagnie sur Internet, le numéro sort, par la poste tu reçois ensuite ton registraire.
Les procédures sont beaucoup plus simples.
Procédures sont beaucoup plus simples. Et puis, il y a aussi la mentalité, clairement, que mon garçon en Amérique du Nord ne pense pas qu'il faut absolument qu'il finisse toutes ses études avant de créer une entreprise. Il y a tout un décorum à avoir dans la tête que la créativité, l'entrepreneurship, elles viennent de diverses façons. Nous, on est allé à l'école, il fallait avoir le bac, ensuite le bac, aller à l'université. Mais aujourd'hui, le monde, il va vite. Et faites confiance aux jeunes dans juste les industries créatives. Ce qui se passe dans le gaming et dans les musiques en ligne, les films en ligne des jeunes, imaginez ça converti en des opportunités qui peuvent être des vraies industries, parce que c'est vraiment de grandes industries. Les barrières sont très, moi je dis toujours, il y a un peu culturel souvent, et aussi parce que l'État aussi doit se mettre dedans. C'est-à-dire, tu ne pourras pas embaucher le million de Tunisiens, dis-leur la vérité, et dis-toi tout simplement qu'il faut au moins déblayer les choses pour que ceux qui ont envie d'être des entrepreneurs le fassent fièrement, que l'État soit là pour les accompagner. Alors, un investisseur a de la chance. Moi, aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on est dans ce monde de technologie, de l'IA et bien des choses, mais on peut aller même dans des entreprises rurales, les entreprises coopératives, les entreprises familiales de la ferme, elles peuvent être chacune à leur niveau des belles, belles opportunités d'affaires. Alors, mon message, c'est il faut y aller. Il faut qu'on ait le courage des Canadiens de foncer sur le territoire ici et d'accepter qu'on va avoir le genou mou un jour, que oui, on va avoir des setbacks et tout ça, mais ça arrive partout, même en Amérique, on a des setbacks, en Europe, on a des setbacks, ça n'arrête pas. Et puis la même chose pour les entreprises tunisiennes, d'oser le Canada. Moi, je dis, oser le Canada, c'est différent. C'est pas l'Europe, c'est pas les États-Unis, c'est pas l'Asie.
Contrairement à ce qu'on croit, parce que généralement, on fait le lien avec les États-Unis, ce qui n'est pas forcément le cas.
Ce n'est pas du tout le cas. C'est autre chose. Et puis, on a une diaspora pour supporter cette transition en ce moment. Moi, je suis très emballé, puis je suis optimiste.
Voilà. Alors, monsieur Pierrot.
Moi, je dirais... pour les compagnies canadiennes et tunisiennes qui nous écoutent, peut-être des conseils très pratico-pratiques. participé aux conférences et aux forums internationaux au Canada ou en Tunisie. Donc FITA, pour l'intelligence artificielle, je vais donner un exemple, All In à Montréal, qui se tient à l'automne. D'ailleurs, la délégation tunisienne, de compagnie tunisienne en intelligence artificielle à All In l'automne dernier, était la plus grande délégation africaine à l'événement. Donc continuer dans ce sens-là. Qu'est-ce que les compagnies canadiennes auraient comme atout particulier ici en Tunisie? Une main d'œuvre extrêmement qualifiée, des compétences et aussi une capacité à combiner une main d'œuvre spécifique avec des formations et des qualifications qui sont offertes ici en Tunisie et qui sont d'origine canadienne. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se délocaliser et d'aller travailler au Canada pour travailler pour une compagnie canadienne maintenant. On peut obtenir un diplôme canadien ici en Tunisie et travailler pour une compagnie canadienne basée à Tunis ou à Sfax ou ailleurs. Et ça, c'est vraiment un atout extraordinaire. Parce que je pense qu'il y a une compréhension que la mobilité, c'est bien, mais c'est pas la solution à tout. Et on remarque aussi maintenant beaucoup de Tunisiens qui ont vécu une expérience au Canada, qui maintenant reviennent vers la Tunisie. C'est un atout pour nous, c'est un atout pour les deux pays, mais c'est aussi, je pense, une réalisation que le modèle doit changer. C'est pas je vais partir au Canada et tous mes problèmes vont être réglés, je vais aller faire mes études au Canada. Et je ne reviendrai pas. Non, il y a vraiment cette notion de revenir et de s'engager, de s'impliquer dans le développement du pays. Et ça, je pense que c'est tout à fait louable et admirable. Et on l'appuie certainement. C'est cette mobilité circulaire dont on parle avec les autorités tunisiennes. Au niveau des défis, je dirais que c'est une question de compréhension et de patience de part et d'autre. On a besoin de mieux se connaître, mieux connaître le milieu des affaires et aussi dans la mesure du possible d'avoir des règles très claires. La question de l'environnement des affaires, le respect de la règle, ça c'est très important, le respect des principes d'affaires et de s'assurer que l'information soit claire et communicable. Donc là je pense qu'il y a du travail à faire, mais il y a d'excellentes opportunités, on est content de pouvoir les saisir, entre autres à FITA cette semaine. Merci.
Merci à vous. En fait, je crois qu'avec la génération Z, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer actuellement. Vous avez cité beaucoup de points qui sont directement liés à la nouvelle génération, la génération Z. Et je crois que ça change la donne totalement pendant ces dernières années. Merci pour votre présence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre Excellence, Monsieur Ben-Marc Diendéré, envoyé spécial du Canada pour l'Afrique. Son Excellence, Votre Excellence, Monsieur Alexandre Bilodeau, ambassadeur du Canada en Tunisie. Merci encore une fois. Et profitez de votre présence ici en Tunisie
pendant ce temps. Merci. Merci beaucoup.
Merci.